Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, les épisodes sont un petit peu espacés en ce moment. Ça fait plusieurs jours que je voulais enregistrer. J'ai même failli annuler cet enregistrement-là parce que je suis en train de me dire que le sujet... je suis un petit peu en retard. Pourquoi je suis en retard? Parce que je voudrais réagir en fait à une petite phrase qui a un petit peu fait polémique en début de semaine. Et en fait, depuis ce week-end, c'est une phrase de Christine Angot. Alors bien sûr... certains ne l'apprécient pas, elle est passée dans l'émission, elle est chroniqueuse dans l'émission de Ruquier, et là vous allez me dire, oh là là, de quoi il va nous parler, alors tout de suite, ne quittez pas, le but du jeu n'est pas de vous parler de Christine Angot elle-même, un petit peu, et surtout c'est de mettre un petit peu en perspective, et ce qui m'intéressait c'était plutôt de voir sa phrase dans un contexte de marque personnelle, sa phrase dans un contexte de ce qu'on est en train de faire maintenant sur internet, de comment on est en train de développer notre visibilité, comment on est en train de développer notre visibilité sur internet, mais aussi en entreprise pour certains d'entre vous. Et j'étais en train de... quand j'ai entendu cette phrase-là, je me suis dit, mais en fait, elle vient d'un autre siècle. Elle est une personne de l'autre siècle. Et c'était un petit peu le sentiment que je voulais partager avec vous. Alors, je vous replace le contexte. Le contexte, en fait, c'est l'émission N'est pas couché, de Ruquier, le samedi soir. Alors, vous savez, c'est toujours un peu polémique, et de toute façon, il vit sur le buzz. Moi, ça fait longtemps que je regarde plus du tout cette émission-là. L'invité était Grand Corps Malade, qui sort un album qui s'appelle Plan B. Et Christine Angot, qui est chroniqueuse, l'auteur, lui fait une petite phrase, en fait, une petite déclaration, enfin, une petite question, que je vais vous laisser écouter. Comme ça, vous allez vraiment voir ce qu'elle lui dit. Voilà vraiment ce qu'elle lui dit.
Quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit. Avocat, par exemple,
médecin.
Instituteur, ou médecin, ou alors travailler dans une entreprise, ou peu importe. C'est toujours le résultat, au fond, d'un échec. Et de devenir artiste, en fait.
Alors, bien sûr, cette phrase, elle fait polémique. Je ne vais pas porter de jugement sur l'émission elle-même, je vous le dis, je ne la regarde pas. Sur Christine Angot non plus, parce que finalement, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je ne regarde pas l'émission. Je ne suis pas non plus attiré par ses écrits. J'ai jamais, jamais lu ce qu'il avait écrit. Enfin, c'est vraiment pas ma tasse de thé, j'allais dire, mais aussi ma tasse de café. Et en fait, chacun aime ce qu'il veut. Voilà, il y en a qui aiment l'émission, il y en a qui aiment l'auteur, il y en a qui aiment l'émission et l'auteur, il y en a qui n'aiment ni l'émission ni l'auteur. Ça, je m'en moque, je m'en tape très clairement. Il est facile de critiquer. Mais en fait, quand même derrière, on se rend compte que les artistes, eux, se sont sentis dénigrés, attaqués. J'ai vu des textes d'une extrême violence contre Christine Angot. Alors elle en a l'habitude. De toute façon, dans sa carrière, quand on regarde, elle a toujours, toujours, toujours été attaquée très, très violemment. Et notamment, son grand succès, L'Inceste, a été attaqué très violemment. Ses écrits ont été attaqués très violemment. Elle a fait l'objet de tribunes, y compris par des anciens chroniqueurs de chez Ruquier, qui sont extrêmement violents, mais déjà par le passé. Et là, j'ai vu des trucs passer sur Facebook, mais de insultants ou l'insulter. Enfin, on l'a traité vraiment de tous les noms. Et je peux comprendre que les artistes se soient sentis dénigrés. Et ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'elle-même est une artiste. Et c'est là où les artistes ont dit, finalement, vous dénigrez les artistes. Vous en êtes une, mais vous dénigrez nous. Et ça pose une question, notamment sur qu'est-ce qu'un artiste, la vision de la société sur ces artistes. Et c'est ça qui m'intéressait aujourd'hui. Et c'est là où je vous dis qu'on a un écart, une différence qui est énorme. Mais en fait, vous allez voir qu'au fil de cet épisode, je vais vous parler non pas de l'artiste au sens juste créatif, artistique, mais finalement au sens aussi, je vais rattacher ça à Seth Godin, qui lui a une vision de l'artiste qui est un petit peu différente, puisque finalement nous sommes tous, ou nous devrions tous être des artistes. Et vous allez voir un petit peu, les deux visions sont totalement différentes, et c'est là où je vous dis que la confrontation m'intéressait. Alors, la question de Christine Angot, finalement, dénigre-t-elle les artistes ou se dénigre-t-elle elle-même? Moi, je la connais pas. Voilà, mon positionnement, en fait, c'est que je me suis demandé si finalement elle a, c'était sa vision à elle de ce qu'est l'artiste, ou si elle exprimait quelque part la vision de la société sur l'artiste. Sa vision personnelle, c'est de fait, on peut se dire que l'écriture n'était pas du tout sa vocation de départ. Elle a fait des études de droit international, de droit européen, et on peut considérer donc que l'écriture est effectivement son plan B. D'ailleurs, au passage, Grand Corps Malade lui dit qu'effectivement, lui aussi, le slam était son plan B, parce qu'il se destinait probablement pas à cette carrière-là. Il a eu un accident, ce qui fait qu'il est paralysé en partie, etc. Et il dit, pour lui, c'est son plan B. Mais d'autres ont dit, dans l'assistance, dans les invités, on dit non, moi c'est pas mon plan B. Elle, vraiment, l'écriture semble être son plan B. Et en fait, elle raconte, elle dit, il y a eu un jour où j'ai écrit vraiment, ce fut quelque chose de très important. Et elle dit, quand son mari lui a dit c'est bien, avoir pris peur et dit, ne me redis pas ça, je suis capable de tout laisser pour écrire. Si ça, c'est pas du plan B, c'est vraiment, j'avais une carrière, un boulot, je sais pas quoi, alors elle a eu plusieurs déboires, etc. dans sa vie, mais à un moment donné, on sent qu'il y a une bascule, voilà, et c'est là où on peut estimer que peut-être qu'elle rêvait d'être juriste ou avocat ou je sais pas quoi, et que finalement, pour elle, elle colle pas à ce qu'elle pensait être. Peut-être, voilà, c'est ça, l'espèce de côté raté qu'elle estime. Il y a un autre côté qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'en fait, elle publie son premier roman en 1990. Mais L'Inceste, qui est le roman qui la lance, qui a été vendu à 50 000 exemplaires, lui a été écrit en 1999. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé 9 ans. Dans ces 9 ans, elle a écrit d'autres choses avant. Elle a écrit 4 ou 5 romans, ou des nouvelles, ou des choses comme ça, qui ont été publiés ou qui ont été renvoyés par les éditeurs, etc., mais qui n'ont pas eu de succès. Et c'est finalement là où on peut se dire que son raté à elle, c'est peut-être aussi d'estimer que finalement L'Inceste, son roman L'Inceste, qui ressemble, alors je sais pas trop vraiment sa vie si c'est le cas ou pas, mais on pourrait dire que ça ressemble plus à une thérapie à ciel, à page ouverte sur son enfance. Est-ce que finalement c'est... elle aurait aimé avoir le succès avec ses premiers romans, et que le succès qu'elle a avec ce roman-là, c'est un petit peu aussi une erreur, un échec, ou, vous voyez, ça ressemble un petit peu au syndrome de l'imposteur, cette histoire-là. C'est-à-dire, le syndrome de l'imposteur, c'est ce qui touche l'autodidacte. L'autodidacte, finalement, il rejette le mérite de sa réussite sur le fait que c'est pas lié vraiment au fait qu'il soit talentueux, ou qu'il ait appris des choses, mais sur le fait que ce soit de la chance, ou des relations particulières, ou des circonstances particulières. On pourrait dire que quelque part, ce syndrome de l'imposteur pourrait très bien toucher Christine Angot sur cet aspect-là de cette phrase-là, en disant que finalement, elle aurait aimé avoir du succès avec ses premiers romans, elle les a pas eus, et avec ce livre-là qui était plus, peut-être pas un roman pour avoir du succès, mais un roman pour exprimer quelque chose qu'elle avait au fond d'elle, et dont elle avait besoin de s'exprimer pour passer à une étape suivante, elle a eu un succès parce qu'il a parlé finalement à des lecteurs. Et on pourrait dire quelque part que peut-être que finalement elle estime, elle, que une porte, sa réussite, c'était un petit peu un raté. On pourrait presque se dire, si finalement elle n'avait pas eu ce succès-là, elle serait peut-être revenue à son plan A, qui était de travailler dans le droit ou je sais pas quoi. Ça, c'est une vision, c'est ma vision personnelle, je sais pas ce qu'il en est. Là où on peut dire aussi qu'elle exprime une vision qui est plus large, c'est la vision de la société sur l'artiste et sur l'art en lui-même. C'est-à-dire quand même, on vit dans une société où l'artiste est quand même dévalorisé. La place de l'art et de la culture sont dévalorisées. Alors c'est pas une nouveauté, ça a toujours été le cas. Y a beaucoup de gens qui pensent que l'art ne sert à rien, que la culture ne sert à rien. Je vous rappelle la phrase de Winston Churchill, quand on lui a demandé de couper dans le budget des arts pour l'effort de guerre, il a répondu, alors pourquoi nous battons-nous ? Dans l'histoire des sociétés humaines, l'artiste a toujours une place très particulière. Alors au départ, on se rappelle une époque où les artistes étaient sous la protection des mécènes, des rois ou de l'église ou de gens comme ça. Mais l'art n'était pas fait pour tout le monde. Et on pourrait dire que dans la société humaine, la création artistique est dévalorisée. Que même maintenant, d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est qu'on est en France, dans un pays où on dévalorise aussi les métiers manuels, alors que pourtant c'était, j'ai envie de dire, à une époque, on valorisait les métiers qui servaient à quelque chose, et les métiers manuels en faisaient partie, par rapport à des métiers comme l'art qui ne servaient pas à grand chose dans la tête de certaines personnes, qui produisaient pas. au sens ils produisent pas, c'est qu'ils vous donnent pas à manger, ils vous donnent pas une maison, ils vous donnent pas un produit que vous pouvez utiliser. Et il faut quand même se rappeler quand même que là, si on vit dans une époque où, en tout cas en France, pour une grande partie de la société, malheureusement pas pour tous, on mange à sa faim facilement, ce n'est pas le cas dans le monde entier, et que ce ne fut pas le cas en France pendant des siècles et des siècles, et où finalement l'homme, la première question qui se posait pour l'homme, c'était de survivre et donc de manger. La grande évolution de notre société, je voudrais pas aller trop loin là-dedans, était quand même de considérer qu'à un moment donné, le moment où on a pu faire autre chose que de chercher à manger, on a pu inventer des choses. Mais au départ, on a inventé des choses que pour chercher à comment faire pour manger, pour survivre. Bon, bref. En France, là, la création artistique est dévalorisée, mais je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est le cas. Je vous le dis, les métiers manuels sont aussi très fortement dévalorisés. Les sportifs sont dévalorisés en France aussi. Hein. Si on regarde les Jeux Olympiques, on est joyeux devant les médailles, les 15 médailles qu'on a aux Jeux en Corée. Mais on oublie par exemple que certains n'ont pas grand-chose pour vivre, que le gars qui fait du bobsleigh, le Français qui fait du bobsleigh, pendant que d'autres ont des centres de recherche et spécifiques pour développer le bobsleigh, lui, c'est ses parents qui lui ont payé son bobsleigh, hein, ça vaut 50 000 euros. Il peut pas se payer son bobsleigh, il a pas les sponsors pour se payer lui-même son bobsleigh, s'entraîner, faire les Coupes du Monde, etc. Bref, et en fait, quand on regarde l'économie française au niveau du sport, on a quand même beaucoup de sportifs qui vivent avec pas grand-chose, et même quand ils sont aux Jeux Olympiques, ils vivent avec pas grand-chose. Il y a les stars, et puis il y a ceux à côté. Mais ça, c'est un autre sujet. L'entrepreneur, lui, on va dire qu'il est survalorisé en ce moment, hein, franchement, si vous êtes entrepreneur tout d'un coup, alors surtout si vous êtes entrepreneur à succès, mais c'est un petit peu aussi par rapport à l'artiste aussi. Le vrai problème, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas considérer qu'être artiste, c'est un métier. Ça peut être une passion, un passe-temps, c'est un divertissement, hein, mais c'est moins important que des métiers classiques, et c'est exactement ce que dit Christine Angot. L'avocat, le médecin, le plombier, voire le développeur, bah finalement, ce sont des métiers qui sont plus importants. On peut rêver d'être développeur ou de faire des programmes quand on est gamin, on peut rêver de développer des jeux vidéo, on peut rêver de construire des voitures, d'être maçon, d'être je sais pas quoi, hein. Chacun a sa vocation, il y en a beaucoup qui rêvent d'être vétérinaire, etc. Mais elle dit on peut pas rêver d'être un artiste. Là, attention, je pense que c'est ce qui lui a attiré les foudres de beaucoup de personnes. Mais dans une société où on considère que finalement l'art ne sert pas à grand chose, bah, c'est aussi une vision du monde productif. Hein. On a les gens qui travaillent sérieusement et à côté on a l'artiste. L'artiste, il a une image de glandeur, hein, c'est facile de peindre toute la journée. On a une fausse image des revenus d'ailleurs. Hein. On a les stars qui gagnent des millions. D'ailleurs, ils font rien, hein, ils sont à la plage. Regardez voici, lisez voici, vous verrez que finalement, un artiste, c'est quelqu'un qui va sur les tapis rouges, qui a un gros bateau, qui va constamment au bord de la mer ou quoi que ce soit, qui met quelques photos sur Instagram maintenant. Et voilà. On a une fausse image aussi de l'intermittent du spectacle. Personne sait comment, en dehors des intermittents du spectacle, il est la galère pour un intermittent du spectacle d'avoir un contrat, d'avoir du salaire régulier, de travailler, comment ils font pour travailler, comment ils font pour vivre, etc. Toutefois, soyons honnêtes, l'artiste est quand même jalousé. Beaucoup se rêvent en photographe, en cinéaste, etc. Se disent, oh, ça doit être génial de faire de la photo tous les jours, ça doit être génial de faire du cinéma tous les jours, ça doit être génial d'écrire, passer sa journée à écrire. Et même beaucoup veulent écrire un roman. Mais pour beaucoup, ça reste un plan B. C'est-à-dire que, effectivement, pendant des années, j'ai travaillé sur quelque chose qui me nourrit. Je pense pas que l'art puisse me nourrir réellement, ou alors je sais pas trop comment. Donc d'abord, je travaille, et ensuite, on verra ce qu'il en est pour ma passion. C'est un vrai paradoxe aussi. Parce que, quelque part, c'est valorisant d'être un artiste, mais seulement un artiste qui est réussi, qui est capable d'exposer, qui est capable d'avoir son travail reconnu ou quoi que ce soit. Et en fait, notre société, l'histoire de notre société, elle est remplie d'artistes maudits et affamés. L'exemple type, c'est Van Gogh, quoi. Van Gogh, souvent cité pour avoir fini fou, pauvre, avec une oreille en moins. Ses œuvres se vendent maintenant des millions, mais on dit, c'est dommage pour lui, mais quand il était de son vivant, il n'en a pas profité, et maintenant, ça se vend des millions. Et c'est là l'image de l'artiste maudit. En fait, on a cette image-là d'artiste maudit, et certains, dans leur tête, disent, de toute façon, un artiste, il est forcément maudit, affamé, quoi que ce soit, ou alors, c'est les planqués. Mais on a cette image qui est très très faussée de l'artiste. Et donc, au final, c'est pas vraiment une carrière que beaucoup de parents souhaiteraient pour leurs enfants. La musique n'est pas un métier, vous voyez ça dans je sais pas combien de films, relisez les biographies où vous avez des gens qui disent « Je voulais être chanteur, mais mon père voulait pas, alors je me suis cassé de la maison, et je sais pas, vous pouvez coller ça, où il y a des films qui parlent de ça, il y a tout un tas de sujets qui parlent de ça, et vous pouvez l'avoir pour énormément de créations artistiques. » Je pense que le nombre de personnes qui s'entendent dire « Tu feras de la peinture le week-end ou du théâtre le week-end, mais pense à payer ton loyer avant », sont extrêmement nombreuses et ont été extrêmement nombreuses dans notre monde. Mais là où je voulais en venir, c'est que finalement, ce paradoxe ne touche pas que l'artiste. Et on pourrait le prendre au sens où finalement, il touche aussi le créateur de contenu, il touche aussi la personne qui fait de la vidéo sur YouTube, le blogueur, la personne qui a un compte Instagram et qui souhaite en vivre. Le créateur de contenu sur Internet a un peu le même statut. Soyons clairs, quand vous dites « Ouais, qu'est-ce que tu fais pour vivre ?» Si vous dites « Je suis blogueur », il y a des gens qui vont dire « Ah, t'es quoi ? T'es blogueur ?» Non, c'est pas possible. Moi, j'ai souvent des formations, enfin, je fais beaucoup de formations avec des adultes, et souvent la discussion à midi, c'est ils me disent « Ah, j'ai mon gamin, il a 13 ans, il veut faire YouTuber. » Et ils me disent « Qu'est-ce que je dois lui dire ?» Et il me dit surtout « Ouais, ça va bien lui passer, de toute façon, je veux qu'il ait son bac, après il aura un métier ou quoi que ce soit, ça va bien lui passer de faire ça. » Mais pourquoi ? J'en sais rien. Ça se trouve, si ce gamin a du talent, pourquoi il ferait pas YouTuber ? Pourquoi il n'arriverait pas à faire une carrière sur YouTube ? Peut-être qu'il n'y arrivera pas, il y en a un sur 1000 qui va y arriver. Mais pourquoi il n'y arriverait pas ? En fait, on n'en sait rien s'il n'a pas essayé. Alors il me demande, moi, qu'est-ce que je leur conseille ? Alors soit le conseil pour le dégoûter, hein, ça peut être, j'ai eu le cas, soit le conseil pour finalement les pousser. Alors moi, je préfère le conseil pour les pousser, et bien sûr, ça déplaît aux parents, parce que ce qu'ils entendent dire, c'est, ouais, votre gamin, peut-être qu'il fera moins ses devoirs, mais si franchement, il s'éclate à faire de la vidéo, pourquoi pas ? Vous voyez, mais c'est, prenons l'e-sport, par exemple. Moi, quand j'étais gamin, j'adorais jouer aux jeux vidéo. J'aurais jamais imaginé à cette époque-là qu'on pouvait... Enfin, j'aurais rêvé d'être payé pour jouer aux jeux vidéo. D'ailleurs, je voulais être testeur de jeux vidéo. J'ai même postulé dans des sociétés comme Ubisoft et compagnie, vous voyez. Et mais aussi, voilà, pour travailler pour des gens comme jeuxvideo.com, des gens comme ça, vous voyez. J'aurais rêvé d'être ça. Mais finalement, je crois que j'aimais pas assez les jeux vidéo pour ça, même si j'y passais des heures. Mais quelque part, on m'a jamais dit, et puis à l'époque c'était un petit peu inconcevable aussi l'histoire, soyons honnêtes, tu vas vivre des jeux vidéo en jouant, tu vas jouer toute ta journée. Et en fait, je pense que testeur de jeux vidéo, c'est juste un métier d'enfer. Enfin voilà, c'est juste un métier d'enfer. Les mecs qui rédigent les solus là des jeux vidéo, mais c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc de fou, parce que il y a une course à être le premier, enfin c'est toujours un bordel monstrueux. Bref. Mais dans la tête des gens, c'est pas un métier. Voilà, c'est pas un métier. On peut pas vivre d'un blog, on peut pas vivre d'un compte Instagram. Quand je dis à des gens, voilà, moi j'ai des anciens étudiants qui touchent 1 200 € par photo publiée sur Instagram, ou alors j'ai une blogueuse qui me demande 500 € la journée pour venir à un événement, ils me disent « Quoi ? Mais c'est pas possible, attends, c'est juste poster des photos sur Instagram. » Et oui, non, c'est pas un métier. Alors j'ai parfois entendu dire que quand je travaillais au conseil régional, j'avais un vrai métier. Que maintenant que je suis payé par l'université comme maître de conférence associé à l'université, j'ai un vrai métier. Sous-entendu, faire mes podcasts, faire mes vidéos, faire du blog, etc. C'est pas vraiment un vrai métier, quoi. Même faire du e-commerce, c'est pas vraiment un vrai métier. Soyons sérieux. Un petit peu, blogueur, youtubeur, podcasteur ou je sais pas quoi, c'est pas vraiment un vrai métier, ça peut être une passion ou j'en sais rien quoi. Combien de fois vous entendez ce genre de constat ? Vous l'entendez énormément et donc ça nous parle aussi à nous et c'est un petit peu normal parce que finalement, là où je voulais en venir, c'est que on est dans la création artistique. On n'est pas des artistes, moi, ne me demandez pas de faire un dessin. Non, sincèrement, ne me demandez pas de faire un dessin. Mais on est dans la création artistique. Et là où je m'appuie là-dedans, c'est de vous le dire que finalement, je vais me rattacher à Seth Godin. Je vous ai dit, moi, Seth Godin, c'est quelqu'un... on ne présente plus vraiment. Hein. Il a eu plein de boulots différents. Il a travaillé chez Yahoo à la grande époque de Yahoo. Il est considéré comme l'un des grands gourous du marketing et aussi l'inventeur du terme marketing viral. J'ai souvent conseillé, je conseille encore à mes étudiants de lire La Vache Pourpre, Tribu, qui sont des bouquins intéressants. Et d'ailleurs, je pourrais vous conseiller maintenant d'écouter, il a lancé un podcast qui s'appelle Akimbo. Alors donc, j'aime beaucoup la description. Akimbo, en fait, il dit c'est juste un genre de podcast différent. Il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de production lourde, de fantaisie ou quoi que ce soit. Ça ne ressemble pas de la radio sportive ni à la radio que les Américains ont l'habitude d'écouter, le fameux réseau NPR. J'aime bien, moi, ce constat, vous voyez, ça me ressemble bien, cette histoire-là. Finalement, on se rend compte que on suit des gens dans lesquels on se reconnaît. Seth Godin, si je le suis depuis des années, j'ai lu peut-être pas tous ses bouquins, mais pas loin, si je regarde mes étagères. finalement, on est influencé par ce qu'il raconte, mais on suit aussi les gens dans lesquels finalement on se reconnaît. Et moi, je me reconnais pas mal dans certains écrits de Seth Godin. Alors, il a publié une bonne quinzaine de bouquins. Il y en a deux écrits qui m'intéressent principalement, et notamment un bouquin qui s'appelle Lynchpin. Et il a écrit un petit manifeste qui est issu de Lynchpin. On va dire que le manifeste lui a servi à lancer Lynchpin. Et le manifeste s'appelle Brainwash. Bien sûr, je vous mets les notes, les liens dans les notes de l'émission. Et sur le blog, vous faites votre coach web /179, hein, je vérifie l'épisode, oui c'est l'épisode 179, et vous allez tomber directement dessus. Alors, Seth Godin, on le présente souvent comme ce gourou du marketing, mais en fait, depuis quelques années, il a une pensée qui est plus large que ça, une pensée assez, le fond de sa pensée est assez récurrent et clair d'ailleurs dans cette histoire-là, c'est qu'en fait, il a pas seulement une vision marketing des choses, il a une vision qui est développement personnel, certes, mais aussi assez sociopolitique, hein, d'internet, du créateur de contenu et du créateur de valeur au sens large. C'est-à-dire que lui, il n'est pas que sur la création de contenu, il est finalement sur le marketing au sens large, sur la création d'entreprise, sur la création de valeur, sur la création de relations humaines. Et il a une vision qui est intéressante dans Lynchpin, qui présente en quelques mots, moi je vous le résume vraiment, c'est de dire que finalement le capitalisme est une grosse machine, mais vraiment une grosse machine, et que dans cette grosse machine, il y a deux équipes. Il y a les propriétaires et les dirigeants, et à côté de ça, il y a la main d'œuvre. Et il nous dit en fait que l'école fait partie de la machine qui va permettre de produire des ouvriers pour les usines et le système capitaliste. Alors, pour lui, bien sûr, quand on parle machine, système capitaliste, usine, on pense, nous, à usine, au sens d'une usine qui fabrique des choses, mais lui, dans son sens usine, il pense à usine, à finalement toute entreprise qui a besoin de main-d'œuvre pour avancer. L'usine, au sens large, c'est un lieu dans lequel des gens viennent faire ce qu'on leur dit de faire contre un chèque. Donc, si vous travaillez au McDo, c'est une usine. Si vous travaillez chez une entreprise qui fait, je sais pas, du téléphone, vous êtes dans une usine. Que vous fabriquiez le téléphone ou que vous soyez développeur d'applications pour le téléphone, vous êtes finalement dans une usine. Une association est une usine, une ONG est une usine. Et pour lui, ce qu'il nous dit, c'est que l'école, en fait, est chargée de créer des travailleurs dociles et qui va nous inculquer l'idée d'avoir un vrai métier, et ce que c'est qu'un vrai métier. Et en fait, il dit, alors je sais plus si c'est dans ce bouquin-là ou dans un autre, il nous dit un truc intéressant, il dit, quand on est gamin, on a plein de créativité, on a plein d'idées, on a toujours des idées, je vous ai dit dans un épisode précédent qu'il faudrait garder la créativité de notre enfance, mais en fait, l'école nous fait rentrer dans un moule qui petit à petit va nous faire apprendre plein de choses, mais va nous faire oublier ce côté créatif. Pour lui, l'école, mais aussi les médias, font partie d'un gros système. Alors les médias, au sens où ils vont véhiculer aussi l'aspect, ben, finalement, avoir un vrai métier, c'est un truc important, mais aussi il faut avoir de l'argent pour vivre, le système de consommation, etc. On pourrait dire, hein, vraiment pour schématiser, mais vraiment très grossièrement, mais vraiment je fais exprès d'y aller là-dedans, c'est vous voulez vivre avec une belle maison, vous achetez des belles choses, il faut de l'argent, donc un chèque, donc un travail, donc bien travailler à l'école et suivre la ligne tracée par les autres. J'ai lu ça encore il y a pas très longtemps, ce matin je crois, dans un bouquin que j'étais en train de lire, où une personne disait, ben voilà, j'ai voulu faire avocat, j'ai investi des milliers de dollars pour faire mes études aux États-Unis pour être avocat, j'ai travaillé, et au bout d'un moment, ben passer d'avocat à youtubeur, c'est pas facile, parce que finalement c'était lâcher ce pourquoi j'avais investi pendant des années. Et lui, à l'inverse, il nous dit un truc, il dit, ben, l'école devrait pas nous apprendre à être moins créatif, en fait elle devrait nous apprendre à résoudre des problèmes intéressants, et des problèmes intéressants, il faut de la créativité pour les résoudre. Ce qu'il nous dit, lui, c'est que il faudrait pas qu'on soit juste gavé de trucs qu'on trouve dans Wikipédia ou dans Google, mais que quelque part, on soit capable, grâce à l'école, de savoir et de comprendre et d'avoir l'imagination pour répondre à des questions pour lesquelles Google n'a aucune réponse et n'aura probablement pas de réponse. La deuxième chose qu'on devrait apprendre, c'est diriger, apprendre le leadership et non juste la docilité. Et c'est là où vous voyez la vision très sociopolitique des choses. C'est que lui, finalement, il nous dit, l'école telle qu'elle est construite maintenant, forme des gens qui sont formés pour aller travailler, et lui, il imagine une école qui serait plutôt formée des gens qui seraient là pour aller travailler, mais d'une manière différente. Son idée, donc, est de proposer une troisième voie, et c'est là où c'est intéressant, et c'est ce qu'il appelle le linchpin. Et le linchpin, la traduction française, c'est « êtes-vous indispensable ?» Alors tout de suite, vous allez me dire « ah, il n'y a personne d'indispensable, etc. » Et en fait, il vous dit un truc qui est intéressant, c'est que le linchpin, dans sa définition, c'est une modeste pièce d'assemblage qui est vendue une bouchée de pain, mais qui se montre indispensable. C'est pas forcément la pièce la plus visible, elle n'a aucun prestige, mais en fait, c'est l'élément essentiel. Il la compare, par exemple, à la vis qui fixe la roue à la voiture. Cette pièce-là qui fixerait la roue à la voiture, ou une petite vis qui permet de bien fixer. Si vous enlevez la vis, quelque part, il y a un truc qui marche pas. Vous avez besoin de la voiture, vous avez besoin de la roue, mais vous avez besoin aussi de la vis. Et ce qui vous dit, c'est que finalement, même dans des petits gadgets, etc., des fois, c'est pas la petite pièce la plus visible qui est la plus importante, ou en tout cas, qui est indispensable. Certes, toutes les pièces seront indispensables, mais c'est l'assemblage de toutes les pièces qui fait que ça va être intéressant. Et il dit, en fait, que si vous enlevez cette pièce-là, bah, l'ensemble ne sert à rien, et il vous incite, en fait, à devenir une pièce qui sert à quelque chose, au sens où si on l'enlève, il y a un truc qui marche plus. Pour lui, le linchpin, au sens de l'entreprise, ça serait finalement une personne qui fait que l'organisation, l'entreprise, a quelque chose de différent aux yeux de ses clients. Alors bien sûr, on pourrait penser aux dirigeants. Il parle beaucoup d'exemples type Amazon et compagnie, ou Jeff Bezos. Amazon ne serait pas Amazon sans Jeff Bezos. Virgin ne serait pas Virgin sans Branson. Mais quelque part, il y a autre chose. Il vous dit, et là où peut-être vous allez vous reconnaître, il dit par exemple, si vous avez l'habitude d'aller acheter vos fruits et légumes chez un marchand de fruits et légumes parce que le vendeur vous donne des bons conseils, ce vendeur est le linchpin, qu'il soit le patron ou c'est un simple vendeur. C'est pareil pour le vin. Si vous allez acheter du vin dans une boutique plutôt qu'au supermarché parce que le conseil du vendeur et vous avez confiance en lui, c'est un linchpin. Si vous achetez des bouquins sur internet parce que un youtubeur, un booktuber vous conseille de lire des bouquins, c'est un linchpin. Si vous, si vous allez dans une entreprise, ça vous coûte un peu plus cher que d'aller à un distributeur automatique de la banque ou je sais pas où pour faire je sais pas quelle opération, parce que vous avez confiance dans la personne que vous avez en face, c'est le linchpin. Vous en avez plein. Voilà, vous avez plein de ces personnes-là autour de vous et peut-être en êtes-vous une. Alors, est-ce que vous en rendez compte ou vous en rendez pas compte? Moi, l'idée, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que Seth Godin vous dit un truc intéressant et que je partage et que je partage toujours avec mes étudiants, c'est que finalement, il faudrait être un petit peu cette personne-là qui apporte de la valeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle a cette valeur-là à vos yeux? Quand vous la croisez, c'est qu'elle a établi une sorte de relation de confiance. C'est pas de l'autorité, c'est pas votre chef ou quoi que ce soit, c'est une relation de confiance qui fait qu'en fait, quand elle vous incite, quand elle vous conseille de faire quelque chose, quand elle vous explique quelque chose, vous allez l'écouter, vous allez agir en fonction de ça. Et c'est là où la personne devient un rouage essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, en partageant son savoir, sa manière de faire, mais aussi, oui, vraiment des manières d'être et des manières de faire, elle apporte quelque chose de différent. Et donc, ça s'applique autant au sein d'une entreprise que, finalement, à l'extérieur, si vous êtes consultant, formateur, coach, enseignant, quoi que ce soit, le créateur de contenu, je vous ai dit, le booktuber est un linchpin en tant que tel, la personne qui est dite influenceuse hein, sur YouTube ou quoi que ce soit, si vous prenez, je sais pas, hier j'en parlais avec des étudiants, je prenais un exemple tout bête, prenez Anne Dumindidou, Thibaut Inchep ou quoi que ce soit, si eux, par leurs vidéos sur le fitness, c'est la course à pied, ils arrivent à faire que des gens se mettent au sport, quelque part ce sont des linchpins et donc ce sont des artistes au sens de Seth Godin. Et c'est pourquoi il le définit comme ça. Il dit en fait tout simplement, l'artiste c'est quelqu'un qui amène un changement. Faire de l'art c'est amener, c'est pas créer quelque chose avec un pinceau, c'est pas faire une sculpture ou quoi que ce soit, c'est finalement se servir de son courage, de sa capacité d'observation, et c'est vraiment ses mots à lui, de sa créativité, de son audace pour contester l'ordre établi et de prendre ça tellement à cœur, de partager tellement de passion que derrière, en fait, on va amener les gens derrière soi, on va les amener vers une prise de conscience, un changement ou être un petit peu différent. Et il le dit, tout le monde peut être un artiste dans son domaine, on peut être un artiste dans son domaine, un créatif, un vendeur de chaussures peut être un artiste dans son domaine, quelqu'un qui invente un nouveau service en ligne, un chercheur qui invente un nouveau produit est un artiste. Et en fait, c'est pas une question de métier. Il donne un exemple, il vous dit, vous pouvez être un vendeur de tofu sans être un artiste, mais vous serez un meilleur vendeur de tofu en étant un artiste, parce que l'artiste, quelque part, il va laisser une trace. Là, j'ai un exemple que j'aime bien, vous savez, j'aime bien Gary Vaynerchuk, j'en parle souvent. Je suis en train de lire son dernier livre d'ailleurs. Et Gary Vaynerchuk, il y a un truc qui est intéressant quand on regarde son histoire, c'est comment en fait il s'était mis à faire de la vidéo pour parler de vin. En fait, on l'a découvert comme ça. C'est un gars qui se met devant sa caméra et qui goûtait des vins et qui vous donnait des conseils sur le vin. Des vins d'ailleurs qu'il vendait, qu'il trouvait pas bons, et des vins qu'il trouvait bons, mais qu'il vendait aussi sur sa boutique physique de son père, en plus la boutique en ligne. Et C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez des milliers de vendeurs de vin, mais il y en a peut-être qui ne vous laissent jamais aucune trace. Vous en avez un qui vous laisse une trace parce qu'il vous apporte des conseils. Et lui, il avait trouvé cette manière-là de le faire sur YouTube. Mais finalement, il aurait pu le faire dans sa boutique. Il a juste choisi de démultiplier sa visibilité en le faisant sur YouTube à une époque où, quelque part, il a été le premier à le faire. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que en faisant ça, il a laissé une trace comme étant le gars qui vend du vin sur Internet. C'est comme vous, si par exemple, vous avez envie de laisser votre trace comme le gars qui sait développer d'une manière des applications dans votre entreprise de telle ou telle manière, ben il va falloir le faire et montrer que vous êtes capable de le faire, mais aussi montrer la passion que vous avez dedans, pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous pensez que c'est intéressant, etc. Et c'est là tout le discours de cette Godin qui est intéressant, c'est qu'il vous dit, c'est la façon de faire ce que vous faites comme métier, mais c'est aussi l'interaction, qui est une relation qui est plus personnelle, plus intime. Alors ça peut être l'art de mener des réunions, de mener une équipe, de calmer un client en colère aussi pour lui. Ça reste c'est une forme d'art. L'art de lever des capitaux pour une entreprise est une forme d'art. Mais en fait, il faut avoir de la passion derrière pour faire circuler cet art-là, pour faire changer les gens. Et en fait, il y a une notion très importante pour lui, c'est que l'artiste a une relation émotionnelle. Il y a un côté émotionnel. Et vous savez que j'en parle beaucoup, c'est qu'Internet en fait est rempli d'ego, de discussions, mais aussi d'émotions. Qu'est-ce qui marche le mieux sur Internet? Ce sont les vidéos émotionnelles. Qu'est-ce qui marche le mieux comme contenu? Ce sont les contenus émotionnels. On arrive même à une saturation de contenu émotionnel. LinkedIn est rempli d'histoires de gens qui ont quitté leur boulot et qui essayent de vous faire pleurer en disant « j'ai changé de boulot, tu peux le faire aussi ». Moi, je ne veux pas essayer de vous faire changer, de vous faire pleurer sur le sort, etc. Moi, je vous partage ma vision et je vous partage un certain vécu. Mais effectivement, on pourrait le faire sur un côté émotionnel. Quand vous regardez les vidéos TED, quand vous regardez tout un tas de contenus que vous avez à droite à gauche, vous avez ce côté-là émotionnel très fort. Donc, pour en revenir à cette Godin, il nous dit un truc, il dit ce qu'il faudrait, la logique du linchpin, c'est quoi? C'est une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui va y mettre de la créativité et qui va diffuser au plus de monde possible, c'est-à-dire en fait, c'est donner beaucoup de choses et aider beaucoup de gens pour finalement se faire une place un petit peu à part, soit dans l'entreprise, soit finalement dans son secteur d'activité. Alors, dans le bouquin, il développe tout ça. C'est un bouquin qui fait 340 pages, ou peut-être 400 pages, voilà, qui se lit très vite, hein, honnêtement, c'est que des petits chapitres en plus, vous pouvez lire deux chapitres par deux chapitres, ça se lit très vite. Il a fait un manifeste qui s'appelle Brainwash. Brainwash, pardon, est en fait le manifeste qui vous donnerait en fait le résumé, les 7 conseils pour arriver à devenir un petit peu ce linchpin ou à devenir un petit peu ce que lui il appelle l'artiste, faire de l'art, etc. Je vous donne les 7 conseils dans l'ordre dans lequel lui il les met, pour vraiment, parce que je voudrais pas dénaturer, mais vous allez comprendre tout de suite que c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé, j'en ai souvent parlé. Ça fait partie un petit peu des sujets récurrents du fil rouge. Premier, c'est connectez-vous. Mais lui, c'est pas connectez-vous au sens de se connecter forcément à des milliers de personnes. Il est pas dans la démultiplication des contacts. Il vous dit qu'en fait, se connecter à une seule personne et faire avancer les projets de cette personne vous rend indispensable auprès d'elle. Peut-être qu'en fait, votre boulot n'est pas d'essayer d'impacter des milliers de personnes. Votre boulot est peut-être d'essayer d'impacter 10 personnes dans votre entreprise pour finalement vous faire une place spécifique dans votre entreprise. Il dit aussi d'être généreux. Le cœur de sa pensée, c'est le partage. Et ça, je l'ai dit, et il partage beaucoup. Il a un blog dans lequel il publie quasiment tous les jours. Il a fait des vidéos. À côté de ça, il vend des choses. Hein. Il vend son conseil, il vend des formations en ligne, il vend beaucoup de choses. Il vend ses bouquins, bien sûr. Mais il donne beaucoup. La troisième chose, c'est produire de l'art. Et là, j'en reviens à ce que je venais de dire. C'est que pour lui, l'art, c'est créer quelque chose qui change la personne qui la reçoit et qui fait une différence. Vous voyez, vraiment, hein, je vous dis, vous faites une vidéo YouTube qui a un impact sur les gens, qui les incite à faire quelque chose de différent, vous êtes, quelque part, vous faites de l'art au sens de cette Godin, donc vous êtes un artiste. Alors après, il dit un truc intéressant, il dit « reconnaissez le lézard qui est en vous ». Ça ne veut pas dire qu'on a un lézard qui trotte en nous, il dit en fait « le lézard, c'est une partie de notre cerveau ». Qui craint l'échec, qui craint d'être ridicule, il faut le reconnaître, il faut le comprendre, il faut le maîtriser. Ça veut dire que quelque part, on aurait envie de faire ça, mais il y a un truc qui nous retient. Et donc, il faut comprendre ce que c'est. Produire, et produire beaucoup. Et il dit d'ailleurs un truc, c'est que produire beaucoup est bien et très rare dans notre société. Et il dit aussi, et ça c'est vrai, et nous connaissons tous le cas, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées, mais qui ne les réalisent jamais. Et moi, j'aime bien mon idée de produit minimum, de contenu minimum viable. Et en fait, on se retrouve un petit peu, cette Godin a un petit peu la même logique. Il dit, en fait, il faut pas viser la perfection. Il faut arriver à trouver l'équilibre entre produire beaucoup et produire une certaine qualité. Et il dit un truc, il dit faut donc produire beaucoup, mais il faut aussi accepter de se planter. Alors lui, il est super indulgent éclaireur. C'est le côté américain, c'est le côté, il se dit, l'artiste est optimiste. Hein, et, lui dit qu'il n'est pas perfectionniste, mais qu'il est plutôt positif par nature. Lui, il dit un truc, qui est, et c'est là où j'en reviens à ma logique de contenu minimum viable, il vous dit un truc assez intéressant. Il dit, en fait, il ne faut pas bâcler, mais il faut pas viser la perfection. Et c'est pour ça que je dis, on en revient au contenu minimum viable. C'est-à-dire qu'en fait, il est nécessaire pour produire beaucoup, de trouver cette espèce d'équilibre, d'accepter de se tromper, d'accepter de faire des choses qui finalement vont tomber à côté de la plaque, des choses qui seront pas réussies, mais à une condition, c'est d'accepter aussi de voir ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on s'est planté, et de réagir en fonction. C'est-à-dire, c'est pas je me plante, tant pis, je fais rien et je recommence. Non, c'est bon, ça n'a pas marché, pourquoi, comment je peux faire mieux. Et c'est, j'en reviens encore à cette histoire de contenu minimum viable, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le fait de produire beaucoup vous permet de tester, et en testant, vous êtes capable d'améliorer au fur et à mesure, de prendre des mesures correctives. Et le dernier point, c'est d'apprendre toujours. Alors lui, il dit avec passion et avec une certaine obsession, et ça tombe bien parce que c'est l'épisode que j'avais prévu de faire la semaine prochaine, qui devrait être l'épisode 180 ou 181, parce que normalement, j'ai prévu d'intercaler un épisode en plein milieu. Donc on verra un petit peu comment il sera numéroté, mais je vous en parlerai de cette notion, cette importance d'apprendre et d'apprendre tous les jours la semaine prochaine. Bien entendu, je vous l'ai dit, hein, tout ça vous parle beaucoup. C'est le cœur de nombreux épisodes de ce podcast. C'est un petit peu le fil rouge. Et en fait, j'ai envie de dire que être artiste au sens Seth Godin, c'est développer sa marque personnelle. C'est-à-dire développer une marque personnelle qui a du sens, de la valeur pour les gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire que c'est là où, vous voyez, moi j'aime pas ceux qui parlent de que le personal branding, c'est du personal branding, en disant tu te branles la nouille, sous-entendu, tu te fais plaisir à ton ego, mais tu sers à rien. Non, c'est pas vrai. Si finalement de construire votre marque personnelle, c'est pour apporter de la plus aux gens, c'est de les aider, c'est de leur apporter de l'information, c'est de leur permettre de faire des nouveaux projets, les aider dans leurs projets, leur permettre d'apprendre des choses, votre personal branding, votre marque personnelle, elle a de la valeur, et donc vous êtes finalement au sens, cette Godin, l'artiste, et donc finalement vous êtes le linchpin, et donc la personne qui peut-être peut devenir indispensable. Peut-être certaines personnes autour de vous, peut-être des créateurs de contenu, vous dites « Ah là là, si je l'avais pas sa vidéo chaque jour, finalement, ça serait moins sympa la journée. » Dans ce cas-là, c'est peut-être un linchpin. Je sais, par exemple, et je le vois, je vous parle souvent de Casinestat. Casinestat, on peut se dire, c'est un mec qui raconte sa vie dans son vlog, mais en fait, il y a beaucoup de leçons dans son vlog, etc., qui font aussi que lui, il a impacté, il a fait changer des gens pour les amener sur des carrières, pour leur donner envie de faire des choses. Alors des fois, on va dire, c'est pour vendre des produits, mais c'est pas forcément le cas. Mais il y a des vidéos. Alors ça me fait rigoler parce qu'en plus il y a Samsung, et comme il travaille avec Samsung, je me suis demandé si finalement c'est pas lui qui avait inspiré la pub de Samsung. Il dit do what you can't, et c'est le hashtag en ce moment de Samsung, c'est on vous dit que vous pouvez pas le faire, mais faites-le quoi. Enfin, on vous a dit que vous pourriez jamais faire la vidéo sur YouTube, et vous faites-le quand même et essayez de le faire. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Le développement de la marque personnelle, finalement, c'est comment j'arrive à mettre en lumière, en avant, ce que je suis capable d'apporter aux autres, comment je suis capable de l'apporter, de partager suffisamment de choses. Et alors, c'est là où les gens se trompent, c'est qu'on a l'impression que la marque personnelle, c'est vraiment pour toucher des milliers de personnes. Mais en fait, un développement de marque personnelle, si vous êtes en entreprise, vous développez une marque personnelle au sein de votre service, vers vos patrons, vers votre entreprise, etc., pour leur montrer que vous avez des compétences. On vous a embauché pour un certain truc, on vous fait un chèque pour un certain truc, mais finalement, vous pouvez apporter beaucoup plus, ne serait-ce parce que vous apprenez, parce que vous mettez de la passion, parce que vous avez acquis l'expérience, parce que vous avez rencontré d'autres gens, parce que avec l'expérience, vous réfléchissez à d'autres choses. Et finalement, si vous arrivez à le faire sentir dans votre entreprise, vous êtes en développement de marque personnelle. C'est là où la marque personnelle ne s'arrête pas aux créateurs de contenu, et elle touche aussi les gens qui ont envie d'être salariés, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'être salariés, il y a des gens qui n'ont pas envie de créer leur entreprise, d'être entrepreneur ou quoi que ce soit. Alors, là-dedans, vous allez me dire, mais Christine Angot, tu l'as oublié, elle est où là-dedans? C'est là où, en fait, je voudrais vous remettre la perspective entre les deux visions. Les deux perspectives, c'est pour moi une inversion des choses. Vous avez la Christine Angot qui sent le 19e siècle et vous avez le Seth Godin qui sent plutôt le 21e siècle. Alors 19e siècle pour Christine Angot, je suis désolé, on va dire allez, fin du 20e. Comme ça, vous voyez, je la rajeunis. Puis elle est de cette époque-là, hein. Moi j'y peux rien. Hein. Elle est née dans les années 60, je crois, un truc comme ça. Mais en fait, c'est un peu l'inversion des choses dans notre monde. C'est un petit peu l'ancien et le nouveau monde. On est dans un monde qui vit, moi j'ai grandi dans ce monde-là et puis on vit encore dans ce monde-là. On a ce truc-là qui est de dire, faut faire des études, tu auras un métier sérieux, garde ta passion pour le dessin, l'écriture, la musique, la photo, la vidéo, je sais pas quoi, pour le soir, mais surtout le week-end, hein, le soir, faut que tu fasses tes devoirs. Et dans un ancien monde, ça pouvait marcher, on disait, voilà, on cherche des gens pour faire des pneus, Noah Clermont, fais des études pour pouvoir rentrer chez Michelin, et tu vas y passer 40 ans. Et puis les mecs, et moi j'ai fait des missions chez Michelin, je peux vous garantir un truc, vous savez, on parle du fonctionnaire qui regarde comment ça s'appelle, l'horloge là, mais y a pas que ces gens là qui regardent l'horloge, hein. Moi je dis souvent les gens qui travaillent dans les grosses entreprises, et vraiment, hein, quelqu'un qui travaille dans une grosse entreprise, ça s'appelle L'Oréal, Orange, ou je sais pas quoi, la plupart des gens en fait, ils ont un comportement de fonctionnaire, parce que ils savent que il faut une petite boulette, une grosse boulette, ça va pas changer fondamentalement il y a une inertie d'entreprise qui est telle que ça change pas grand chose de truc. Ils arrivent 10 minutes en avance ou 10 minutes en retard, ça change pas fondamentalement les choses. Ceux qui pointent, ils sont en train de regarder la petite horloge qui tourne. Moi, quand j'ai fait des missions dans ces boîtes et quand j'ai travaillé au conseil régional, j'ai retrouvé la même ambiance. Et pourtant, il y en a qui étaient fonctionnaires et pas d'autres. Mais ça, c'est ma vision des choses. Ce qui est sûr, c'est que on a quand même des nombreux métiers qui sont menacés par ce qu'on appellerait l'intelligence artificielle, qui n'est pas très intelligente, qui est juste en fait une capacité des ordinateurs à apprendre ce que les gens sont capables de faire un peu machinalement. C'est ce que je dis à mes étudiants, ne soyez pas un robot. Et il y a des étudiants qui me disent, je veux faire community manager. Je dis, alors attention, c'est un plan de carrière risqué, parce que si community manager, dans votre tête, c'est de répondre aux gens sur Facebook, Twitter, etc., ça, un jour, un robot saura le faire, parce qu'il saura lire la question, il saura répondre dans une base de données que quelqu'un aura remplie. Soyez plutôt la personne créative qui est capable de remplir la base de données, de trouver des nouvelles idées pour remplir des nouveaux services, des nouvelles idées. Soyez plutôt le créateur de contenu qui va nourrir ensuite des robots qui vont diffuser le contenu à droite à gauche, plutôt que le robot qui va lui, enfin le robot humain, mais c'est un peu le cas, qui nourrit les réseaux sociaux dans un premier temps et qui sera un jour remplacé par un vrai robot. Je vous rappelle que on a des robots qui sont capables d'écrire des articles de Wikipédia. Google fait des robots pour écrire un article Wikipédia aussi bien que Wikipédia. On a les résultats sportifs peuvent être écrits par des robots écrivains. On a tout un tas de choses qui sont, vous voyez, même les, par exemple, la profession d'avocat est en train d'être impactée par la capacité de l'informatique à consulter une grande somme d'informations et finalement d'amener de l'information à l'avocat. Et l'avocat, qu'est-ce qu'on va lui demander maintenant? C'est pas de savoir le code pénal, le par cœur, etc. Moi, quand j'ai fait du droit, parce que dans mes études, j'ai fait beaucoup de droit, et un prof nous a dit, vous avez pas besoin de connaître tous les articles par cœur. Non, vous devez comprendre la logique, comment vous devez aller d'article en article, de cas en cas, et quelle est la logique de fonctionnement, le cheminement pour aller rechercher l'information là où elle se trouve. Mais ça, un ordinateur est capable de le faire. Ensuite, il faut être capable d'analyser et de l'analyser avec une certaine créativité. Et c'est ça, en fait, être le linchpin, c'est ça être un artiste. Un artiste du droit, c'est quelqu'un qui va trouver dans le droit une certaine créativité pour, finalement, ça profite à ses clients. Et c'est pour ça que on a des grands avocats, des ténors du barreau, comme on le dit, bah, qui sont payés plus que les autres, parce que eux, ils ont la créativité dans la défense de leurs clients. Alors, moi, je vous le dis, j'ai beaucoup de mal à former des étudiants qui soient juste des exécutants. Et en fait, je veux qu'ils soient des acteurs et des créateurs. Et je leur dis, que vous soyez un indépendant ou que vous soyez en travailleur salarié, dans tous les cas, à un moment donné, il va falloir que vous ayez de la créativité, parce que sinon vous serez un jour remplacé. Alors, bien sûr, ça surprend beaucoup de gens, et quand on parle à des personnes qui ont fait carrière, qui ont travaillé pendant 30 ou 40 ans dans la même entreprise, c'est très compliqué, parce que on est dans ce monde quand même à la recherche du CDI, du métier sérieux. Si vous lâchez un appartement, vous n'avez pas de CDI, vous êtes juste dans la merde. C'est con à dire, mais un CDI, les gens pensent que c'est un contrat à durée indéterminée, c'est juste un contrat, oui, qui a une durée indéterminée, mais il peut se rompre très rapidement. Et on se dit, une fois qu'on l'a, c'est le confort, hein, on est tranquille, et on a sa paye qui arrive, etc. Mais en fait, les mouvements, y a plein de choses qui peuvent arriver, hein. Une entreprise se fait racheter très rapidement, l'intelligence artificielle, le patron qui casse sa pipe et d'un coup il est remplacé par un autre, vous voyez, il y a plein de choses qui font que finalement il y a cette espèce d'inconfort. Mais quelque part, on valorise le CDI. On sait que c'est difficile de le quitter une fois qu'on l'a, mais on valorise aussi quand même ceux qui ont changé de vie. C'est-à-dire que l'exemple de J.K. Rowling, par exemple, hein, avec Harry Potter, ça fait rêver quand même pas mal de gens. Anthony Trollope, le postier dont je vous avais parlé dans l'épisode 159, qui écrivait le matin et le soir et qui était postier le reste de la journée et qui a eu beaucoup de succès, ça fait aussi rêver les gens. Et en fait, la réflexion de Christine Angot, pour moi, elle témoigne un peu de cette vision-là. C'est-à-dire qu'en fait, le métier sérieux, voilà, on fait ça, mais si on est vraiment écrivain à temps plein, c'est que finalement, c'est un échec parce qu'on n'a pas réussi dans son métier sérieux, on s'y plaisait pas, donc on a cherché autre chose. La vision de cette Godine, c'est un contraste. C'est-à-dire que là où Christine Angot, elle vous dit être artiste, c'est un plan B, cette Godine, il vous dit être artiste, c'est le plan A, c'est le plan A qui va vous permettre de vivre votre vie, de faire quelque chose qui va vous intéresser, d'être venir irremplaçable au sens où finalement vous avez un savoir que l'informatique, que des personnes qui arriveraient, etc., ne pourront pas avoir si facilement que ça. Moi, je le dis souvent à mes étudiants au propos de community manager, je leur dis c'est facile d'apprendre les réseaux sociaux, mais c'est compliqué d'apprendre la stratégie de l'entreprise quand vous êtes embauché. Votre patron est un meilleur community manager que vous dans l'esprit parce que lui, en fait, il peut vous dire ce qu'il faut mettre sur les réseaux sociaux, alors que vous, quand vous êtes embauché, vous ne pouvez pas lui dire ce qu'il doit faire comme stratégie. Lui, il a la connaissance des choses comme ça. À la limite, si vous lui apprenez à gérer les réseaux sociaux, votre patron peut être community manager, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et ce qui est intéressant, pourquoi j'en viens là-dedans, c'est que finalement, le conseil de cette Godine, pour moi, c'est de dire, plutôt que de rêver à être un artiste ou d'être un artiste du soir, eh ben, on pourrait être, finalement, notre plan A, ça peut être d'être un artiste, que ce soit un créateur de contenu indépendant, que ce soit un consultant, un formateur ou je sais pas quoi, ou que l'on soit dans son entreprise et que finalement on y mette une dose de créativité, où on développe sa marque personnelle en interne, où on développe finalement du relationnel, où on développe de la passion, où on montre qu'on est passionné par son métier, par l'entreprise qui nous embauche. Et en fait, on peut appliquer ça à toutes les sphères, que ça soit pro, que ça soit même dans la passion, j'ai envie de dire, parce qu'à la limite, vous voyez, un dirigeant d'association, il rentre tout à fait aussi dans cette logique-là. Lui, cette Godine, dans son bouquin, je vous le dis, il distingue le boulot du travail. Le boulot, c'est j'arrive le matin, je touche mon chèque, je m'en vais le soir, et j'y mets pas trop de créativité. Le travail, c'est j'y mets de la passion et de la réflexion pour bouger l'ordre établi et pour faire que mon travail soit plus créatif et que moi-même, finalement, j'y prenne plus de plaisir. C'est un petit peu la différence, hein, que je dis toujours, entre le cuisinier qui suit des recettes toute la journée et qui lui peut être remplacé par un agent maintenance à qui on dit bah t'as qu'à faire chauffer un truc au micro-ondes. C'est ce qui se passe dans plein d'écoles, dans toute la restauration collective, et le chef qui invente des cuisines, qui va provoquer une certaine surprise, de la joie, etc., parce qu'on va aller dans son restaurant. Le chef a une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ou pas d'étoiles, il a de la créativité. Quand le gars qui travaille en cuisine collective, il ne fait que réchauffer des plats, et ben il a pas de créativité. Et en fait, c'est deux métiers qui sont totalement différents, alors que pourtant, dans les deux, on dit « je suis cuisinier ». Mais il y en a un qui a un côté exécutant, et un autre qui a un côté plus créateur et artistique, et c'est là où on en revient à cette logique-là de l'artiste. Vous devez, que ce soit dans votre communication, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans un métier, etc., vous avez quelque part, pour vous, c'est plus intéressant d'avoir ce côté créatif, artiste, changer les gens, essayer d'apporter des nouvelles choses. Et c'est là où se situe la valeur. Moi, je vous ai souvent parlé de la valeur, c'est important, il faut apporter apporter un plus aux gens, quoi. Enfin, les gens, ils ont pas de temps à perdre, donc si vous leur faites perdre leur temps à raconter ce qu'ils peuvent lire partout ailleurs, ça n'a aucun sens. Le but du jeu, finalement, c'est d'apporter de la valeur et de faire réfléchir les gens, d'avoir un petit toc-toc. Quand on a fini de vous lire, de vous écouter, de regarder ce que vous faites, il faudrait qu'il y ait un petit toc-toc dans la tête qui dit « Tiens, c'est intéressant ce truc-là, ça me donne une idée, j'ai envie de lancer ça. Tiens, j'ai envie de lancer un podcast. Tiens, j'avais cette idée-là, mais j'ai envie de le faire. » Quand vous êtes comme ça, vous êtes le fameux linchpin de Seth Godin, vous avez ce côté créateur, artistique, etc. Si vous vous contentez de recopier machinalement ce que font les autres, si vous vous contentez de finalement faire toujours la même chose, au bout d'un moment, vous n'apportez plus de valeur, vous n'avez pas de nouvelles idées. Ce qu'il faudrait trouver, c'est plutôt avoir des nouvelles idées, des nouvelles ambitions, utiliser un nouveau logiciel, vous voyez, lancer des nouveaux projets, des choses comme ça. Là, vous avez plus de valeur parce que quelque part, vous faites vraiment progresser l'entreprise. Alors que si finalement, on vous dit, ben, fais ça et que vous contentez de faire ça, vous vous entretenez juste un statu quo. Au bout d'un moment, le statu quo, ça mène pas grand chose. Attention, aussi, on dit pas que c'est facile. Dans son livre, d'ailleurs, Seth Godin dit un truc qui est vrai, c'est que votre entourage, il vous dit toujours « Ouais, mais si ton truc artistique, là, si ton projet, ça marche pas, est-ce que t'as quelque chose pour vivre à côté ?» Donc, il vous dit « Est-ce que t'as un plan B ?» Mais le plan B dans l'esprit, c'est de dire « Si finalement, vous lancez dans cette démarche de travail plus créatif, plus artistique, plus impliqué, etc., ça échoue, est-ce que t'as quelque chose d'autre à côté ?» Alors, bien sûr, c'est un truc qu'on dit beaucoup aux créateurs de contenu. Hein. Si vous dites « je vais lancer une chaîne YouTube et j'ai envie de vivre de ma chaîne YouTube », et que c'est un étudiant qui vous dit ça, et on va dire « ouais, mais et si ça marche pas, tu vis de quoi ? Comment tu vas faire pour manger ?» etc. et autres. Et c'est souvent un petit peu le cas. Alors, Seth Godin, il donne le cas des profs d'université, et j'ai aucun mal à le croire. C'est que un prof d'université, souvent, et en fait, il va se dire « une fois que je suis titularisé, je suis tranquille ». Mais s'il reste dans cette tranquillité de ne rien produire, etc. à côté, bon, finalement, il devient pas très intéressant, il devient un peu flétri, hein, c'est le problème des profs, etc. De certains vieux profs, hein, qu'on trouve un peu flétri, pas très intéressant. Et finalement, c'est quoi? C'est la sécurité qui amène ça. Alors lui, il le développe un petit peu dans le bouquin, et ça, je vous laisserai le lire. Comment la conclusion de tout ce que je viens de vous raconter, parce que bon, ça fait quand même 49 minutes que je vous raconte tout ça, c'est que finalement, on a désormais des outils comme Internet qui permettent de nous faire remarquer, à condition de prendre la parole, avec passion, générosité, d'apporter de la valeur aux autres, d'apporter aussi de la créativité pour résoudre des problèmes ou pour faire des nouvelles choses qui vont apporter une plus-value aux autres. Après, il faut le faire savoir autour de nous, et ça, c'est la base du développement de la marque personnelle. Ce qui marche sur Internet marche aussi dans l'entreprise et en dehors d'Internet, ou même vous pouvez utiliser Internet pour le faire connaître dans votre entreprise, hein, c'est un coup de billard, on pourrait dire. Le fait, par exemple, de faire des conférences à l'extérieur va montrer aux gens qui sont dans votre entreprise que finalement, bah, vous êtes peut-être plus de valeur que ce qu'ils pensaient par rapport au poste sur lequel vous êtes. Ça peut arriver, ça peut être le cas comme ça. Moi, d'ailleurs, ça m'est arrivé quand je travaillais en agence. Le fait que j'aille faire des cours à la fac, que je commence à faire mes premiers cours à la fac, le fait que je fasse des blogs, etc., amené mon patron à se dire que je pouvais aussi réfléchir à la stratégie de l'entreprise, à la formation des clients, plutôt que juste de faire de code HTML, du CSS ou du Flash. Voilà, c'était comme ça. Vous voyez, je vous parle d'un truc il y a plus de 10 ans de ça maintenant. Donc, au cœur de l'entreprise, la logique est la même, c'est-à-dire que finalement, on pourrait dire que si on vous demande de faire une tâche, la tâche telle que vous la faites, en fait, quelque part, votre marque personnelle, elle dépend aussi de la manière dont vous faites votre tâche. Si vous êtes le gars qui a la réputation de dire, si je m'adresse à lui, enfin le gars ou la fille, hein, si je m'adresse à lui, je sais que ça va rouler, que le problème sera résolu, qu'il n'y aura pas de soucis, que ça va être livré dans les temps, quelque part, votre marque personnelle en interne, elle est super bonne. Elle sera super bonne. Et c'est comme ça que créer, par exemple, des choses, d'ajouter des nouvelles idées, d'essayer de créer des nouvelles choses, de lancer des projets. Chez Michelin, ils avaient un truc qui existe toujours, c'est si on a une idée, c'est des idées de progrès. Si vous avez une idée pour faire progresser l'entreprise, mais des fois, c'est juste déplacer des tuyaux ou, enfin, je vous garantis qu'il y a des idées qui sont des fois très bêtes, mais qui ont fait gagner beaucoup d'argent à l'entreprise et beaucoup d'argent aux gens qui les ont eues. Mais tout ça, en fait, c'est ce qui rend finalement les gens un petit peu plus indispensables que juste quelqu'un qui serait là le matin, qui badge, qui fait son travail la journée, qui s'en va le soir et dont on a à peine vu finalement le passage. Lui, Seth Godin, et là où je le rejoins, et la conclusion, c'est de dire en fait, il faudrait participer avec générosité à la vie, soit de son secteur d'activité, soit de l'entreprise dans laquelle on est, et finalement, c'est ce qui fera qu'on ait une certaine référence, parce que on va être le gars ou la fille à qui on pense quand on a un problème, sur tel sujet ou quoi que ce soit. C'est là où, par rapport à Christine Angot, on a une différence majeure, c'est que finalement, les deux visions des choses, c'est que Christine Angot vous dit le métier sérieux c'est d'être avocat ou quoi que ce soit, et Seth Godin vous dit un truc, il vous dit pas que c'est pas sérieux, il vous dit que oui vous pouvez être dans ces métiers là mais qu'en fait vous pouvez le faire avec une côté plus artistique, que c'est d'abord un état d'esprit, que c'est pas juste un métier, que c'est des compétences, une démarche permanente, il faut de la patience, il faut de l'endurance pour le faire savoir, mais que au sens de Seth Godin, en fait, on peut le faire aussi dans son métier du quotidien, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé juste d'attendre les ordres et les faire, on peut aussi essayer de changer un petit peu, d'avoir un impact, et que ça aura un impact aussi sur notre carrière et sur ce qu'on fait. Il rappelle quand même deux choses importantes, c'est qu'en fait, que ça soit sur Internet, mais aussi dans n'importe quel environnement, et c'est vrai aussi, il faut avoir une cible précise, vous pouvez pas impacter n'importe qui, vous pouvez pas impacter tout le monde, il y a des gens avec lesquels vous aurez plus d'impact que d'autres, et il y a des gens pour lesquels ça sera plus intéressant pour vous, et c'est ainsi, il faut aussi avoir sa cible. Alors, Christine Angot, moi voilà, je vais pas continuer à la lire. Je pense que sa question du, sa petite phrase, bon, elle représente un petit peu un état d'esprit. J'aime bien, moi, l'approche de Seth Godin. Je trouve intéressant de ressembler, de mettre les deux l'une en face de l'autre, parce que quelque part, ça montre deux visions des choses. Je la remercie, elle, hein, ça m'a permis de réviser mes classiques. Je me suis replongé dans Lynchpin, de voir un petit peu, retrouver un petit peu les fondements de certaines choses. Ça m'a remis une petite piqûre de rappel. Ça m'a rappelé aussi pourquoi il y a certaines choses je l'ai fait et pourquoi j'y mets autant de passion et pourquoi je suis content d'y mettre autant de passion. Donc, merci Christine Angot. Ça veut pas dire que je vais lire les bouquins. Je suis pas d'accord avec son côté artiste ou quoi que ce soit. C'est un plan B. Je suis plutôt d'accord avec Seth Godin sur le fait que être un artiste, ben finalement, au sens où lui il l'entend, c'est finalement le seul plan vraiment viable. Voilà, et moi c'est le message que je fais passer auprès de mes étudiants. Et je la remercie aussi quand même de me rappeler de pourquoi je fais ça et comment je le fais, et pourquoi je fais le podcast, et pourquoi je fais plein de choses, et pourquoi je suis content de le faire avec la passion que j'ai pour ça. Et finalement, je remercie aussi Seth Godin de me permettre de dire que finalement, je suis quelque part un artiste, et oui, alors que je pensais pas du tout. Donc merci Seth Godin de pouvoir me permettre de dire moi que je suis un artiste, et que finalement, bah, c'est mon plan d'être un artiste. Et donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.